Il y a tant de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Tant de choses qui m'indignent ou me bouleversent. Qu'au lieu d'en faire une impuissance, j'ai choisi d'en faire un voyage. Une déambulation. Depuis 5 ans, je fais le tour de la zone intangible où vivent les Taromenane. Les derniers chasseurs-cueilleurs de l'Amazonie équatorienne, dans le parc du Yasuni. Je marche sur les traces d'une petite fille, Taona, nomade Taromenane, rescapée d'un massacre, dont j'ai aperçu la photo dans le bureau d'une fondation. L'existence de cet enfant et de son peuple réveille une autre façon d'être au monde. Elle ouvre l'espace d'un vis-à-vis qu'il me semble impératif, aujourd'hui précisément, de partir explorer.
Anne Cibran, Le Cercle Sauvage. Voyage en Amazonie équatorienne. Neuvième épisode, Le Chant de l'Homme Brûlé.
Laissant Quito une fois encore pour descendre vers l'Amazonie, je suis loin de soupçonner à quel point ce nouveau voyage le long du fleuve Chirepuno me rapproche de Taona. À tant penser à elle, lui parler à voix haute, elle existe avec tant de présence que je n'espère pas de rencontre. Savoir qu'elle respire quelque part me suffit. Au fil de ces voyages, la forêt m'a appris à goûter la saveur de ce bain d'intervalle, où le vent, la lumière et la pluie porte parfois le chant de ces hommes qu'il ne faut plus déranger.
Hé, toi, mets-toi près de la bonbonne de gaz. Non, non, toi, viens t'asseoir à l'avant.
L'Aipé dirige la pirogue. C'est un Waorani de Guanamo, un des derniers villages avant le Pérou. N'écoutant que son grand cœur, il a fait monter avec nous une famille d'un autre village tout aussi éloigné. Le père, la mère, la grand-mère et les petits-enfants qui attendaient un bateau pour rentrer chez eux gratuitement. Les vacances de la famille se sont décidées sur un coup de tête, quand un piroguier qui repartait à vide leur a proposé cette balade jusqu'au poste de contrôle du Chiripuno, à 2 jours de pirogue à moteur de leur maison. N'ayant rien pour payer le retour, ils y sont restés 1 mois. Cet avant-poste de l'armée équatorienne, chargé de surveiller et réguler l'entrée de la zone intangible, consiste en un pont saturé d'un entrelac de pipelines et surmonté d'une guérite vide la plupart du temps. De l'autre côté de la route, quelques maisons délabrées, où se croisent prostituées, toxicomanes, trafiquants de bois et de drogue, et des baraquements désaffectés. Devant l'épicerie débit d'alcool, 5 ou 6 corps allongés et ronflant bruyamment. Il y a mieux comme lieu de villégiature, mais tout le monde semble content. Il faut dire que c'est leur première excursion hors de la forêt, leur premier contact aussi avec notre civilisation. Comment ont-ils mangé? Où ont-ils dormi? Pour ce voyage en précarité, ils ont emporté l'essentiel, tous les maillons de la lignée, ce pourquoi, peut-être, ils n'ont manqué de rien.
Tu as compris ce qu'ils ont dit?
Non. Diego, mon guide, parle à la fois Waorani et Quechua.
Il parlait de Taona. La petite Taromenane vit maintenant à Temano, plus bas sur le fleuve à quelques heures d'ici. Il y a une semaine de ça, l'armée organisait une opération spéciale pour aller la chercher à Yalentaro, car on craignait pour sa vie. Mais personne ne peut voir la fillette. Ceux de Temano ont interdit l'accès.
La nouvelle me bouleverse. Pour ce que Taona a dû supporter encore, mais aussi pour cette irruption soudaine de la réalité. Ce cercle sauvage entre dans une autre dimension. Quelque chose de plus concret qui me trouble. La dimension incarnée, douloureuse de l'histoire, et ce sentiment d'impuissance. L'existence de ce peuple m'inspire et me donne envie de voyager, mais que puis-je écrire ou faire devant ce qui lui est infligé ? Voilà ce qu'il me reste à apprendre sans doute. Pourquoi Temano ?
C'est elle qui l'a voulu. Quand elle s'est retrouvée à Coca, c'est le chef Waorani de la communauté de Temano qui faisait l'interprète. Et elle l'a supplié de la prendre avec eux. Et après ce que j'ai compris, elle sait que les gens de Temano vivent encore en harmonie avec la forêt.
Comment le sait-elle, puisque les Taromenane refusent tout contact?
Ça ne les empêche pas d'avoir des yeux partout.
Des yeux partout. Quelque chose s'est déchiré comme une membrane entre les mondes. Taona est sortie de l'écran d'ordinateur. La photo s'est mise en mouvement. La forêt m'en sert de plus en plus, qui voit tout. D'un bout à l'autre du Yasuni, colporte, chante, fait circuler les messages. Tandis que je parcours lentement les méandres de cette eau rousse parsemée de graines, de feuilles sèches, où l'aileron d'un dauphin surgit parfois, je sens monter cette torpeur qui m'est devenue familière. Entrer dans une forêt originelle, c'est percer la poche du rêve pour la sentir se refermer langoureusement autour de soi. Un rêve où la réalité s'agite soudain, nous rejoint à grands pas.
Tu vois les rives hautes de ces côtés du fleuve? C'est là que sont les Taromenane. Ils longent les crêtes des collines. Parfois, ils descendent jusqu'ici pour s'embusquer dans un arbre penché sur l'eau. Et comme passe la pirogue, ils te percent de leur lance.
Diego profite du voyage pour se livrer à une chronique exhaustive des massacres Taromenane qui ont eu lieu le long du fleuve Chiripuno. Rubrique nécrologique que confirme aussitôt la topographie, les détails de la berge. Au point que j'ai l'impression parfois de voir encore l'empreinte des corps dans la boue.
Imagine que quelqu'un entre dans ton jardin, tue ton chat, ton chien, arrose ta pelouse de pétrole, coupe tes arbres fruitiers et creuse un gros trou à côté de ta maison. Sans te demander la permission, bien sûr. Eh bien, c'est exactement ça qui vivent les nomades. Sauf qu'en plus, on les tue.
La nuit est tombée. Nous n'arriverons pas à Guanamo ce soir. Sans lumière, tous ces rochers, ces troncs rendent la navigation dangereuse. Nous faisons escale à Omere, dans la famille de Tiro. Je n'ai pas remarqué que nous avions accosté du côté des berges hautes, c'est-à-dire dans la zone intangible. J'ai eu le temps de voir une grand-mère emporter un aigle harpia, perché sur une branche, avant que nous entrions dans la maison de Tiro. Accroupie derrière un panier, les enfants enfilent un slip tandis que leur mère s'habille d'un t-shirt et d'un pantalon de jogging trop grand pour elle, visiblement. Qu'est-ce qui fait que la nudité et l'animal sacré qui veille sur la famille doivent être escamotés dès que paraît le blond? Est-ce l'empreinte traumatisante des 10 années qu'ils ont passées avec les missionnaires du protectorat quand on les a sortis de force de la forêt? Quoi qu'il en soit, il nous assoit autour du feu tandis que les enfants s'amusent à tirer un chiot assis dans une caisse en plastique. On parle un moment de choses anodines, puis tout le monde est fatigué. L'AIP, le piroguier, installe les vacanciers sur une bâche, à même le sol. La famille de Tiro s'est retirée dans une petite pièce fermée avec des planches mal ajustées. À présent qu'ils dorment tous, la forêt coule, traverse la maison, apportant le chant des grenouilles, le bruit d'une bête sautant dans la rivière pour traverser. Elle couvre nos rêves, nos souffles, nos insomnies. Le cri d'une faim dans la gorge d'un petit qui maintenant tout saute d'un mélange d'impatience et de gloutonnerie entre deux gorgées de lait. Est-il vrai que les Taromenane ne sortent jamais la nuit car ils ne se sentent plus assez hommes quand vient le crépuscule, redoutant que la forêt les mange, les absorbe entièrement? Un peu plus tard, je suis réveillée par une flamme qui se dresse tout à coup dans le feu endormi. Une grand-mère est accroupie qui agite un habit, le sèche sous les fumées, l'enveloppe de chaleur, avant de disparaître vers l'enfant couché derrière elle pour l'en couvrir aussitôt.
Anita, les nomades! Ils sont passés tôt ce matin, tout près d'ici.
Où ça?
Là. Regardez. Ils ont pris quelques bananes et un peu de manioc.
Mais qu'est-ce que vous faites aussi à vivre de ces côtés du fleuve? Vous êtes en pleine zone intangible. L'armée vous a donné l'autorisation?
Non, Diego. Je sais, on n'a pas le droit d'habiter ici. Mais ce bout de terrain appartient à la famille de ma femme. Et depuis qu'on a quitté le protectorat, on n'a pas d'autre endroit où aller. C'est pour les nomades que j'ai semé ces champs de manioc et de bananiers. Ils viennent prendre ici ce dont ils ont besoin.
Alors j'aperçois ce pied, à peine imprimé dans la boue, l'empreinte d'une femme d'après Thiro. Immense, large, les doigts déployés en soleil, comme une main écartée. Une trace à peine et rien d'autre.
Ils savent sauter comme les biches, bondir très loin sans élan.
Les autres marchaient dans les feuilles. Regarde, là.
Sont-ils de ta famille, Taona, ou bien d'un autre clan? À présent, nos chemins se croisent, mais je ne veux pas qu'ils se touchent. Cette proximité me met mal à l'aise. Je demande à Diego qu'on reparte au plus vite. Ce n'est pas que j'ai peur des lances, je n'y pense même pas. Je redoute seulement de troubler quelque chose avec mon odeur, mes microbes. J'ai passé sans le vouloir la porte du sanctuaire. Je n'ai pas à être là.
C'est l'histoire de Nenki qui part chasser avec les hommes et arrive tout en coup dans un endroit nu, sans aucun arbre. Tout le monde est aussitôt brûlé. Nenki a juste le temps de sauter dans les fleuves. Il est brûlé aussi. Mais d'un côté seulement, alors il ne meurt pas. Il se roule dans la boue pour soigner ses blessures. Et quand il se remet en marche, il est perdu, Nenki. Il ne reconnaît plus rien. Où est mon chemin? Crie Nenki. Il rencontre un homme perdu qui défriche un coin de forêt pour planter les maniocs. Il appartient au peuple des perdus. Et comme Nenki l'aide bien, l'homme lui donne une de ses sœurs pour épouse. Nenki reste un peu avec elle. Puis un jour, il se rend compte que les perdus n'ont rien semé. Il repart alors Nenki, mais sans retrouver son chemin. Un peu plus loin, il touche un bâton qui se met soudain à grandir si vite qu'il l'emporte avec lui. Nenki se trouve coincé en haut de l'arbre. Les scarabées touroués la marchent sur son dos en lui recommandant de bien fermer les yeux pendant la descente. Une fois qu'ils sont à terre, l'escarabée lui dit « Tu prendras à gauche pour rentrer chez toi. » Mais Nenki se trompe. Il va à droite. Cette fois, il arrive chez les abeilles. Et encore une fois, il travaille un peu avec elles. Et il repart. Toujours sur les mauvais sentiers. Toujours à se tromper. Jusqu'à ce qu'il arrive enfin à la grande maison où un vieil homme est en train de danser. Le grand-père danse en parlant comme s'il y avait du monde. Mais Nenki ne voit par terre que des feuilles et des brindilles. Il avance et soudain, les feuilles et les brindilles se mettent à crier. « Pourquoi tu marches sur ma famille ?» demande le vieil homme. Alors, Nenki s'aperçoit que tout est vivant. Les feuilles sèches, les brindilles, comme des petites personnes. Le lendemain, le vieil homme appelle les papillons jaunes. Suis-les, ils connaissent tous les chemins. Ils sauront te guider pour te ramener chez toi. C'est ainsi que Nenki retrouve sa maison, en suivant les papillons jaunes.
Quand nous arrivons à Guanamo, la nuit tombe. Arrondies autour du feu, les maisons ressemblent à des cavernes creusées dans la roche des forêts. Tapare, la vieille mère de l'Aipé, est assise sur un banc à côté de son mari Omaiwe. Elle mange une orange. Je crois qu'il n'existe pas plus grand honneur pour une orange que de se trouver à cet instant dans les mains de Tapare, à recevoir une attention absolue, déshabillée soigneusement, reniflée avec ferveur, tandis que les yeux se ferment sous la mastication, dont on peut deviner la joie qu'elle procure à la commissure des lèvres de la vieille femme, cérémonieusement inclinée vers le fruit. Tout fait silence dans ce partage. Est-ce sa première orange? Est-ce qu'elle célèbre ainsi chaque chose que son fils lui rapporte de la ville? La rencontre est si intense que j'attends poliment qu'elle ait fini de communier avec le fruit pour accueillir son regard et hocher la tête en guise de salut. Tapare ne se préoccupe pas de savoir si je comprends. Elle croit à la vertu du geste juste, de l'intonation. Elle est tellement dans ce qu'elle raconte qu'effectivement, sans l'aide d'un traducteur, je vois apparaître ce troupeau de sangliers qu'elle a chassé tout à l'heure de son champ de manioc. Soudain, elle plonge son regard dans le mien, avec le même élan, sans vergogne, la même entière curiosité qu'elle avait pour l'orange. Que voit-elle en moi? Quel est le voyage où je l'invite à mon tour? Un groupe de touristes américains vient de quitter le village. Les sachets entamés de sauce tomate, de confiture ou de mayonnaise sont distribués aux enfants qui les sucent comme des reliques et les jettent dans l'herbe autour.
Ma mère demande si tu as un mari dans ton pays. Sinon, elle dit qu'il reste des hommes ici, si tu veux t'en choisir un. Moi, pour apprendre l'anglais, il suffit que j'invite une Américaine dans mon hamac et le lendemain, l'anglais m'est rentré dans la tête. Oh, enfin, quelques mots.
Petit, massif, ventru, l'AIP a l'air d'être modelé de cette argile rouge qu'on trouve sur les rives de la rivière. Une tignasse épaisse, hirsute, et au milieu du gros visage, une bouche partiellement édentée. Quand l'AIP ne rit pas, il fait la sieste, affalé dans un hamac, les pattes écartées, et se grattant le ventre, parfois les testicules, l'œil morne, lâchant des ordres à un jeune homme timide et frêle qu'il appelle Chino, le chinois.
Si tu prends un mari ici, il faudra que tu apprennes à faire l'amour dans un hamac. Mais les femmes de ton peuple aiment bien cela.
Après quelques jours, nous avons fini par comprendre que l'AIP, que l'on prenait pour le piroguier, était en fait le véritable invité du voyage. D'une gloutonnerie insatiable, il puise sans cesse dans la réserve de nourriture, avec une prédilection pour les mélanges. Mayonnaise et confiture, pilant les biscottes pour en saupoudrer les yaourts. Chaque escale est pour lui l'occasion de nouvelles conquêtes pour des joutes amoureuses démonstratives qui nous réveillent parfois. Flemmard, il traduit un mot sur deux, quand il n'invente pas pour combler les trous. Mais j'aime sa joie de vivre, son naturel irrésistible. Il a quelque chose d'un Zorba des forêts humides. Trois jours plus tard, nous quittons le fleuve Chiripuno pour remonter l'un de ses affluents, jusqu'à cet îlot où est la maison de Kawiya. Je l'avais rencontré à Omere. Il m'avait invité à passer chez lui. J'avais aimé tout de suite la douceur de sa voix. Couverte de palmes, fondue parfaitement avec la forêt, la maison de Kawiya ressemble à celle des nomades.
C'est à l'écart. Je ne pensais pas que vous viendriez.
Il est parti cueillir deux longues feuilles de palmes qu'il dépiote, puis commence à tisser. Au bout d'un moment, comme il mesure le diamètre de mon crâne, je comprends qu'il me fait un bandeau, comme une couronne toute simple, verte et luisante, qu'il m'enfile en souriant.
Comme ça, tu n'auras jamais les cheveux devant les yeux pour courir.
Je ne me vois pas piquer un sprint en pleine forêt primaire, mais l'attention me touche infiniment. J'aime aussi la façon dont il me laisse une place à côté de ses gestes, sans rien changer de sa journée. Assis devant un tas de copeaux, il taille et affûte des flèches pour sa sarbacane, en même temps qu'il prépare du curare, et toujours en chantant. Le chant rythme ses gestes, mais vient aussi pour répondre à un oiseau, ou au souvenir d'un ancien, d'une histoire. Tu prépares cette lance pour la chasse ?
Non. Je ne chasse plus. Je n'aime plus tuer les animaux. Je veux qu'il reste des bêtes pour que mes petits-enfants puissent les voir et les connaître. Je mange maintenant du poisson. Les plus drôles, c'est que les bêtes le savent. Elles se sont rapprochées. Tu vois les trous là-haut, dans les palmiers. C'est un nid de perroquet. Et les singes viennent jusqu'à ma maison.
Et toi, Kawija, tu as toujours vécu ici?
Je suis né dans la forêt, avant les contacts. J'ai connu la liberté. Je me souviens encore quand l'hélicoptère est venu nous chercher pour nous amener dans ce qui les appelait le protectorat. Beaucoup de gens mouraient de la polio. Moi, j'ai mal au ventre pendant des mois à cause des nourritures. Le sucre, les graisses. J'ai cru mourir souvent. La première fois que je suis monté dans un bus, je me suis uriné dessus tellement j'avais peur. Après, il a fallu que je travaille pour les pétrolières, pour gagner la nourriture qu'on m'a donnée, comme il disait. Je suis allé partout, même en Colombie, au Pérou. J'ai dû couper des arbres, porter des bottes de caoutchouc, marcher dans les rivières mortes où le pétrole s'est déversé. Je fais ça pendant plus de 20 ans. Et quand mes enfants n'ont plus eu besoin de moi, je suis revenu sur mon territoire. J'ai enlevé mes habits. J'ai repris ce que m'avait transmis mon grand-père et mon père. Le courage, la pêche, construire ma maison, marcher dans la forêt et surtout les champs.
Comment as-tu fait pour te souvenir des traditions? Et surtout, comment as-tu gardé le désir de revenir avec toutes les tentations de la ville?
Ce n'était pas difficile, Anita, car ça ne m'étonnait pas du tout. C'était bien de connaître le monde des Blancs, mais je savais dès le début que je n'en faisais pas partie. Quand tu es né nomade, la forêt chante en toi. Il y en a qui oublient ces chants. Moi, je n'ai pas oublié. Ils m'ont aidé à tout traverser parce que je n'ai jamais cessé de les chanter. Tout le temps que je travaillais, je me le répétais inlassablement pour les jours où je reviendrai ici pour retrouver ma vie.
Je pense au conte de Nanki. Après avoir été brûlé par la lumière, loin des arbres, après avoir erré partout, Kawiya a retrouvé le vieux sage qui sait que tout est vivant pour suivre le vol des papillons jaunes. Après tous ses détours, il a fini par retrouver le chemin de sa maison.
Le cercle sauvage, de Anne Cibran. 9e épisode. Avec
Chloé Réjon,
Carlos Donoso, Vladimir Beltrán,
Emiliano Suárez,
Freddy Rojas,
María Ángeles Marcos,
Alfredo Burbano,
Bianca González,
Alexandra Tacoamán de l'Ermite,
Denzel Calle González.
Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Julie Briand, Vivien Demeyer. Réalisation, Laure Egorov.